RFI.
Il est tout juste 8h23 ici à Paris. C'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec à la une de la presse hebdomadaire, la percée d'Emmanuel Macron qui menace la primaire de gauche.
Oui, il a fait sale comble hier à Lille. L'ex-ministre de l'économie, sourire d'ange et bras levés, formant un V très gaullien à la une du journal du dimanche. Prise en meeting hier dans cette métropole du nord de la France. La photo l'a été dans une salle où plus de 4000 personnes scandaient des Macron président. Emmanuel Macron, c'est le fantôme de la primaire de gauche, celui qui la vampirise, lance le JDD. Il hante les esprits. Les 7 candidats qui débattent ce soir pour la deuxième fois à la télévision n'ont qu'à bien se tenir. Et il faut bien l'admettre, ça n'est pas faux qu'ils paraissent moins fringants, ces 7 candidats que l'on voit aussi alignés en rang d'oignon dans ce même hebdomadaire. 6 hommes et une femme, sorte de symbolique polyandrie de circonstances, et donc qui sait sans lendemain. Pour ne rien arranger, l'avocat Dominique Villemot, intime du président français, déclare dans le journal du dimanche que François Hollande va probablement soutenir Macron, car, ajoute-t-il, je ne vois pas quel autre candidat il pourrait soutenir. De quoi, en effet, plomber l'ambiance à gauche.
En tout cas, si la gauche française va mal, c'est parce qu'elle renonce à être elle-même. C'est un avis signé Christiane Taubira.
Dans un entretien à l'hebdomadaire Le 1, l'ex-garde des Sceaux et passionnariat de la gauche regrette que la dite gauche ne recule pas seulement, elle bute sur ses propres renoncements, dit-elle. Et quand Le 1 demande à Christiane Taubira pourquoi elle n'a pas représenté sa candidature à la prochaine élection présidentielle, comme elle l'avait fait en 2002, année où la gauche fut éliminée au premier tour de la course à l'Élysée, Christiane Taubira répond « Je me présente en 2002, je suis coupable de l'échec de la gauche, je ne me présente pas en 2017, je suis coupable du probable échec de la gauche. » Probable échec ? Le cadavre bouge encore, rétorque l'Obs, mais le temps presse, il devient urgent et nécessaire de relever la tête en juin, cet hebdomadaire proche de la dite gauche, et de prouver au croque-mort pressé de la droite et de l'extrême droite que la gauche est toujours vivante, veut croire l'Obs.
Lui, il est de gauche, c'est Jean-Marie Le Guen, il est même membre du gouvernement, et donc il ne le sera plus fin mai.
Oui, Jean-Marie Le Guen, c'est un Africain en mission CDD, lance l'Express à l'endroit du secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Alors, pour illustrer le caractère africain de Jean-Marie Le Guen, l'hebdomadaire a exhumé 2 scènes d'archives en Côte d'Ivoire. La première date du 28 mars 2008, quand, avec Jack Lang, l'alors président Laurent Gbagbo, était allé faire la fête rue Princesse à Yopougon. Au cœur de la troupe en goguette, un quasi-inconnu, grand gaillard au crâne poli, lui aussi aux anges, Jean-Marie Le Guen, député PS de Paris, qui explique aujourd'hui à l'Express cette virée nocturne d'une formule « tourisme politique », dit-il. La seconde scène se passe 2 ans plus tard, soit en 2010, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Jean-Marie Le Guen récidive, en compagnie cette fois du futur premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Tourisme, là encore, se demande l'Express, difficilement plaidable. Le duo paraît le 16 octobre 2010 à la tribune d'un meeting électoral à Daloa aux côtés de l'ami Laurent Gbagbo. Alors, quand l'Express lui demande ce qu'il en pense aujourd'hui, Jean-Marie Le Guen répond « Je n'ai pas à m'excuser, Gbagbo était sympa et touchant, avec une vraie tripe socialiste. Hélas, son anticolonialisme progressiste, légitime, a viré à la francophobie outrancière. » C'est monsieur le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen qui le dit.
Et l'on reparle ce matin de l'affaire Uramine, car l'acquisition par Areva de cette entreprise minière canadienne en 2007 est à présent dans le collimateur de la justice américaine.
Oui, selon le journal du dimanche, fin 2016, le département de la justice a demandé au FBI d'enquêter sur cette opération qui pourrait tomber sous le coup de la loi contre la corruption internationale. C'est une très mauvaise nouvelle pour Areva, souligne le JDD.
En France aussi, après Renault, la justice pourrait s'intéresser à d'autres constructeurs automobiles pour non-respect des normes anti-pollution.
C'est Ségolène Royal qui prévient dans le journal du dimanche, étant rappelé qu'il y a 3 jours, une information judiciaire visant Renault a été ouverte par le parquet de Paris pour tromperie présumée sur les émissions polluantes des moteurs diesel produits par le premier groupe automobile français. La ministre de l'Environnement dit au JDD que des anomalies ont aussi été relevés chez d'autres constructeurs et qu'il pourrait donc y avoir d'autres enquêtes. Tous ceux qui dépassent les normes anti-pollution devront eux aussi rendre des comptes, admoneste Ségolène Royal.
Et puis retour vers l'histoire cette semaine. Le nazi Alois Brunner est mort dans un cachot à Damas en 2001.
Elle est en vue, cette revue de reportage qui a pour nom Revue 21. Et depuis cette semaine, elle l'est plus encore avec cette enquête en Syrie sur Alois Brunner. Selon ce trimestriel, ce criminel nazi aurait passé les dernières années de sa vie reclus dans une prison en sous-sol de la capitale syrienne où il serait mort à l'âge de 89 ans. Responsable devant l'histoire de la déportation suivie de l'assassinat de plus de 130 000 juifs d'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, Alois Brunner a dirigé le camp de Drancy près de Paris. Depuis 60 ans, le fantôme d'Alois Brunner plane sur la Syrie, énonce la revue 21. Plané. Jusqu'ici, même sa mort n'était qu'une hypothèse disputée. Pour les uns, il se serait éteint en 1992, pour d'autres en 2010, à l'âge de 98 ans. D'autres encore le pensaient toujours vivant, complète ce journal qui a mené l'enquête à Damas, où il a recueilli trois témoignages concordants selon lesquels Alois Brunner aurait vécu les dernières années de sa vie enfermé dans un cachot au sous-sol d'une résidence habitée par des civils jusqu'à son décès en décembre 2001 et son enterrement dans un cimetière de la capitale syrienne. Pour lire la revue 21, une seule adresse, le kiosque ou la librairie la plus proche de chez vous et non dans le fatras d'Internet. Bonne lecture.
Merci Norbert Navarro. Et pour écouter votre revue de presse, c'est sur Internet. En revanche, que ça se passe, www.rfi.fr. Je vous dis à tout à l'heure pour la une de Jeune Afrique.
À tout à l'heure.